Bonjour à tous et bienvenue à cette émission de Chant contre Chant, rendez-vous habituel et mensuel sur le cinéma, proposé par l'association Profil sur l'antenne de Fréquence Protestante. Émission qui sera présentée par moi-même, Jean Lot, et je serai entouré par Tatiana Zazulinski. Bonjour Tatiana.
Bonjour.
Par Françoise Lot. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Et par Jacques Champeau. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Alors, enfin, septembre et octobre avaient été des mois cinématographiquement très riches. Malheureusement, novembre a été un petit peu plus maigrelé. Toutefois, un petit peu dans ce manque de richesse, nous avons quand même réussi à retrouver un certain nombre de films intéressants. Et nous avons retenu trois films pour notre débat. Le premier est l'œuvre d'une débutante, Marianne Tardieu, qui vient de sortir son premier film, Qui vive. A l'inverse, le second, L'homme du peuple, a été réalisé par un immense cinéaste mondialement connu. Je veux parler du polonais Andrzej Wajda. Et enfin, moins connu, mais faisant partie de ces cinéastes français importants, dont nous attendons la sortie avec impatience et intérêt, Françoise Ozon est l'auteur du troisième film que nous avons retenu pour cette émission, Une nouvelle amie. Et bien sûr, le débat sur ces trois films sera suivi par les coups de cœur habituels. Bon, nous allons commencer avec Qui vive. J'ai dit que c'était le premier film de Marianne Tardieu. Bon, ce n'est quand même pas une novice en matière de cinéma. Après des études de philosophie, elle a fait en effet l'école Louis Lumière. Elle en est sortie en 2003. Elle a réalisé plusieurs courts-métrages, en même temps qu'elle a travaillé comme chef opérateur sur de nombreux films. Et là, enfin, elle se lance dans la réalisation avec ce Qui vive, dont elle a écrit le scénario avec Nadine Lamarie. Alors, pour ce premier film, il faut dire qu'elle a choisi un sujet quand même casse-gueule, la banlieue. Quand c'est quand même là un domaine bourré de pièges, d'idées toutes faites, où il est difficile d'éviter les clichés. D'ailleurs, elle n'est pas la seule dans cette rentrée 2014 à aborder ce thème de la banlieue. En effet, vient de sortir également Bande de filles de Céline Sciamma. Alors, Tatiana, tandis que, est-ce que comme Céline Sciamma, Marianne Tardieu a réussi à poser un regard original et personnel sur un sujet tellement lourd de risques?
Oui, elle a fait un sujet vraiment très personnel. Bande de filles, ça décrit des jeunes filles pleines de vitalité, qui s'attarde dans l'insouciance de l'adolescence. Bien avant, c'est un sujet récurrent, il y a eu la haine, l'état des lieux, qui était l'opposition de mondes imperméables l'un à l'autre, l'esquive de Kechiche, et plein d'autres. Pour son premier film, Marianne Tardieu a fait moins une étude sociologique de la banlieue que le parcours d'un jeune homme shérif. Ça n'est plus un adolescent, il a 30 ans, il étudie d'arrache-pied, mais il a de la peine à décrocher le concours d'infirmier. En attendant, il est retourné vivre chez ses parents et travaille comme vigile pour gagner sa vie. Dans ce film, la banlieue, c'est comme un décor, manifesté par la présence de bandes de jeunes désœuvrés qui traînent dans les rues, investissant le parking du supermarché où travaille shérif et le harcelant au quotidien sur son trajet et son lieu de travail.
Le shérif appartient quand même à ce monde, lui aussi. Hein.
Oui, il vient aussi de la rue, mais il semble avoir échappé à la malédiction. C'est un jeune homme doux, mesuré, réfléchi. Son chef de service semble l'apprécier, mais renacle à lui trouver un travail plus valorisant que de faire le pied de grue à la porte du supermarché. Les gamins du collège l'adorent, car il a été leur pion pendant des années. Il aime ses parents, aide sa mère dans ses tâches quotidiennes, mais ses parents ne peuvent pas grand-chose pour lui, ce sont deux êtres silencieux, dépassés par la vie. Donc, un jeune homme bien. Alors, ses anciens amis sont toujours là, mais pour la plupart, ils ont choisi le côté obscur, celui des deals ou de la résignation. Shérif se sent donc seul avec son mal-être. Il donne l'impression de ne se sentir à sa place nulle part. La rencontre dans un bus de Jenny, interprété par Adèle Exarchopoulos.
Oui, c'est pas facile.
Oui, apporte un moment lumière et légèreté à l'histoire. Le lien se fait à travers les enfants que Jenny accompagne et qui connaissent bien le jeune homme. Alors, on a de très jolies séquences de dessins d'enfants animés par Jenny et qui donnent un élan poétique à la mélancolie ambiante.
Oui, à ce moment-là, on a vraiment l'impression d'une embellie, quelque chose a démarré.
Oui. Hein. Tout pourrait, en somme, évoluer vers le mieux, vers un nouvel emploi, un nouvel environnement, une vie nouvelle en compagnie de Jenny, s'il n'y avait de ces grains de sable qui se glissent là où il ne faut pas et qui font tout dérailler. Le ton du film bascule le jour où Shérif, une fois de trop, est chahuté par la bande de voyous qui l'ont pris pour cible. Il rend coup pour coup sous l'œil désapprobateur de Jenny. Mais trop c'est trop, il se sent impuissant et pour la première fois demande de l'aide à Deda, un de ses anciens camarades devenu petit caïd. Deda accepte le prévenant que ce ne sera pas gratuit.
Alors effectivement, ça ne va pas être gratuit.
Oui, il est donc amené en échange à donner des informations sur une livraison de nuit où il fait partie du service de sécurité. Et là, le récit bascule dans le drame. Le vol se termine par un mort et un blessé. Le film devient une enquête policière. Shérif est arrêté puis remis en liberté. On perquisitionne chez lui sous le regard d'incompréhension des parents qui sont complètement largués. Il est rejeté par ses anciens amis car il est passé du côté obscur de la barrière. Lors de la reconstitution du drame avec tous les participants du CAS menottés, il est sous le feu menaçant de leur regard car ils craignent son témoignage. Une fois de plus, Shérif se retrouve seul, en décalage avec tous ceux qui constituent son univers. Alors, est-ce qu'il trouvera en lui les forces qui le feront repasser du côté lumineux de la barrière? C'est ce qu'on peut espérer à la fin du film, car Marianne Tardieu filme des personnages vrais. Reda Kateb, excellent une fois de plus, donne toute son épaisseur à Shérif, ce jeune homme pétri de contradictions, fait de sentiments, de désirs, d'ambitions, et qui cherche incessamment une stabilité qui peut-être est enfin à sa portée.
Oui, enfin, je suis assez d'accord avec toi. Enfin, Marianne Tardieu nous livre là un film qui est sensible, qui est juste, avec des personnages vrais. Hein. Enfin, du moins, en ce qui concerne pour moi les personnages principaux. Enfin, effectivement, Shérif est un être complexe qui sort des canons habituels des personnages de banlieue. Il ne se résume pas à ce qu'on sait de lui. On devine derrière lui des tas de zones d'ombre qui lui donnent son intérêt et dont, il est vrai, Reda Kateb rend toute l'épaisseur. Enfin, j'ai trouvé que c'est parce que Reda Kateb est un acteur remarquable qui a une présence qui s'impose. En fait, pour moi, c'est lui qui porte le film. Absolument. D'ailleurs, on l'avait déjà vu dans Hippocrate où il était tout à fait remarquable. À côté de lui, en fait, je ne voudrais pas non plus oublier Adèle Exarchopoulos, dont on a pu retrouver la fraîcheur et le sourire. Mention favorable aussi au chef du personnel. En fait, je pense que c'est le chef du personnel. Enfin, c'est un patron, quoi. On ne sait pas très bien quelle est sa fonction dans le supermarché. Un patron qui est humain. Donc, on sort un peu de la caricature habituelle de ce genre d'emploi. Alors, par contre, où je serais plus sévère, c'est sur le portrait qui est fait des jeunes. Alors, je trouve que les jeunes sont c'est un peu tous les poncifs du genre qu'on retrouve là, tant dans le vocabulaire que dans le comportement, et ça m'a un peu gêné. Jacques, tu que t'as...
Non, moi ça m'a pas vraiment gêné. Moi j'ai trouvé que c'était un film honnête, pas caricatural, sur les difficultés de s'en sortir pour les jeunes de banlieue. Il n'y a pas de misère sordide ni de grands ensembles kafkaïens, mais une existence pénible dont il n'est pas facile de sortir. Le boulot de vigile est ennuyeux, à la merci de petites frappes qui s'ennuient et qui cherchent à le provoquer. Ou peut-être d'ailleurs, pour répondre à ta question d'ailleurs Jean, peut-être mu déjà par le caïd qui pense ainsi peut-être le tenir. Hein. Je veux dire, on n'est pas à l'abri d'une manipulation de ce côté. Et puis le film décrit bien ensuite les petits engrenages qui peuvent faire déraper jusqu'au drame. Mais je crois que c'est surtout, et je voulais bien souligner, un beau portrait d'homme, quoi, un portrait porté par Reda Kateb. On voit, enfin ses copains l'appellent l'intellectuel dans un monde qui ne l'est pas beaucoup, mais on le voit aussi plus à l'aise avec les collégiens du collège où il a été pion et qui manifestement l'adorait.
Oui, même et ça sont des scènes magnifiques.
Et ça, c'est des scènes très belles.
Là, il retrouve une vérité.
Et puis on voit quand même ses éclairs de bonheur, de joie. Il est pas très souvent joyeux, mais on le voit dans ses yeux, dans un sourire timide. Alors notamment avec ses enfants, avec sa copine bien sûr. Et puis alors surtout là, je rejoins la nuance d'espérance dans la scène de sa formation pratique d'infirmier, où là vraiment on a l'impression qu'il est heureux, il s'en est sorti, ouais. Il fait ce qu'il a envie de faire.
C'est marrant parce que là on a l'impression de le retrouver dans Hippocrate, où justement il joue le rôle du tout vivre. Et là il est très bon effectivement dans cette scène-là. François, tu partages cette opinion sur Reda Kateb?
Alors oui, sur Kateb, je trouve qu'il est remarquable, et je dirais même que c'est sur lui que le film entier repose, et que sans Kateb, le film ne valait pas tripette.
Oh, tu vas loin quand même, là.
j'ai vu ça. C'est un film, mais c'est pas inintéressant, c'est un film qu'on peut aller voir, en effet, qu'on voit avec un certain plaisir. Mais je pense que Reda Kateb, c'est une vraie graine d'acteur. On ne sait pas ce qu'il va donner, mais moi j'ai envie d'aller le voir maintenant dans ses films, et je le trouve remarquable de présence, de justesse, de finesse. Il a juste le mystère qu'il faut. Il suscite l'empathie, enfin la sympathie. Moi, j'ai tout de suite trouvé... J'avais envie que ça marche bien pour lui. Je trouve que les autres... Bon, Adèle Exarchopoulos, en effet, elle est très belle. Elle a beaucoup de présence dans le film. Mais bon, c'est pas son jeu qui m'a retenue. C'est sa présence et sa beauté, mais son jeu ne m'a pas beaucoup intéressée. Enfin,
c'est un rôle mineur aussi.
Un rôle mineur.
Elle n'est pas très très longtemps à l'écran quand même. Hein.
Bon, on aurait pu la gâter davantage peut-être. Quant aux autres acteurs, je trouve qu'ils sont de simples figurants. Ils n'ont aucune présence, ils ne jouent pas, ils sont eux-mêmes... Je trouve que c'est un peu facile. Heureusement qu'il y a Reda Kateb, le grand Reda Kateb, vraiment. Félicitations pour lui. Alors, on a parlé à la fin, Jacques parlait de sa formation à l'infirmier. On est drôlement content qu'après s'être fait coller deux fois, il ait fini par avoir son oral. On n'y croyait pas. Je trouve que ça arrive un peu comme la cerise sur le gâteau, comme un joli dessert, mais rien ne l'amène. C'est pour faire gentil, c'est pour que les gens ne sortent pas trop tristes de la salle.
Oui, mais ça permet quand même une scène qui est très ambiguë, parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va tourner. D'un côté, il a effectivement reçu son examen d'infirmier, mais de l'autre, il est sous cette enquête, on sait ce qu'il a fait, et la police est sur le coup, donc c'est très ambiguë.
Oui. Quant au film de banlieue, on en a vu beaucoup, et je trouve que celui-ci reprend exactement ce que tous les autres films disent, à savoir la banlieue et ses codes, les conflits de loyauté, l'appartenance au territoire, les rapports de force, les hiérarchies, les caïds, l'impossibilité de sortir de cet endroit là, sans passer pour un traître, sans être coincé quelque part, on l'a déjà vu beaucoup.
Et toi,
mais pour moi, c'est moins un film sur la banlieue qu'un beau portrait d'homme.
Oui, tu as raison. C'est le film, c'est le portrait de ce shérif, qui est un personnage, un très beau personnage, très très beau personnage. Rien que pour ça vaut la peine de se déplacer.
Alors, il y a une scène qui sont très réussies. On parlait tout à l'heure des rencontres avec les enfants qui sont très réussies. Et par contre, une scène que j'ai trouvée très loupée, c'est vraiment dommage. C'est la scène de l'attaque du camion. On a l'impression que la directrice n'a pas voulu tomber dans les pièges classiques de l'attaque de la diligence et a essayé de faire ça de manière beaucoup plus feutrée, beaucoup plus douce. Mais du coup, moi, je n'arrive pas à y croire. On n'y croit pas grand-chose.
On voit rien, c'est ce qu'il y a dans la nuit.
Oui, mais c'est peut-être volontaire, c'est-à-dire qu'on n'y comprend pas grand-chose, ça reste finalement, c'est à la fois central, et puis pas le sujet du film, d'une certaine manière. C'est un rebondissement très important, mais au fond, le film est beaucoup plus sur la psychologie de Kateb, et donc, à la limite, on voit cette scène de la manière dont il le voit, c'est-à-dire qu'il ne comprend rien du tout, pas grand-chose.
Oui, il y a quand même un mort et un blessé, et c'est ça
qui va dramatiser. Ouais. En effet, c'est le ressort dramatique.
Enfin, on a un peu l'impression que ni les uns ni les autres ne savent très bien ce qu'ils doivent faire dans cette scène, que ce sont un petit peu des branquignoles, et la réalisatrice la première, si je puis dire. C'est secondaire, parce que c'est pas le thème du film.
Puis c'est un premier film, elle va en faire des très bien. Là, il y a quelques bémols, quand même.
Bon. Ouais.
Il y a de l'avenir.
Il faut l'encourager.
C'est un premier film intéressant, et vraiment, c'est une réalisatrice à suivre. Voilà, donc on va passer, après la plus jeune, on va passer au plus âgé. Andrzej Wajda, il a 88 ans, il est polonais. C'est même le plus célèbre des cinéastes polonais. Et il a été lancé internationalement par Canal en 1957, où il atteint vraiment déjà la gloire internationale, et depuis ça n'a jamais cessé. Et aujourd'hui, il sort cet homme du peuple, et depuis donc de 57 à maintenant, il a toujours été le miroir de la société polonaise, dans ses soubresauts, dans ses chaos, à travers la seconde moitié du XXe siècle. Hein. Alors bon, ce titre de l'homme du peuple, bon, il n'est pas sans éveiller des échos. En 1977, il y avait eu l'homme de marbre. En 1981, il y avait l'homme de fer, qui était un petit peu la suite de l'homme de fer, dans la mesure où les deux films se enchaînaient des périodes et on retrouvait les mêmes personnages. Alors Jacques, est-ce qu'on peut considérer que l'homme du peuple aujourd'hui est un peu le troisième volet d'une trilogie consacrée par Wajda à la Pologne et à sa sortie du communisme et à l'émergence de la démocratie en Pologne?
Ah oui, je crois que le titre est sans ambiguïté, il fait vraiment référence à cette trilogie, mais je pense que c'est surtout en fait une recréation de l'homme de fer, qui traitait en grande partie des mêmes événements. Sauf que l'homme de fer avait été tourné vraiment à chaud, quelques mois seulement après les événements de l'été 80 à Gdansk, et en profitant d'une période de relative ouverture politique, et d'ailleurs si on s'en souvient, Lech Walesa y jouait son propre rôle. L'homme du peuple, lui, est au contraire tourné plus de 30 ans après, et alors que les grèves de 80 sont pour beaucoup de Polonais de l'histoire ancienne, une histoire qu'ils n'ont pas vécue. Donc Wajda veut réaliser un film didactique pour les nouvelles générations, il veut dire sa vérité sur des événements que lui a vus de près, et avant qu'ils ne soient déformés par l'oubli ou par l'histoire. Et puis, il veut surtout raconter un héros. Et dans une certaine manière réhabiliter Lech Walesa, qui a été critiqué ensuite pour son action comme président de la Pologne. Et il explique d'ailleurs dans une interview « Je ne peux accepter qu'un homme aussi unique dans l'histoire polonaise soit minimisé ou sous-estimé. » Et puis il veut aussi défendre une thèse, et ça apparaissait nettement dans le film, thèse selon laquelle les Polonais ont souvent échoué par irréalisme, par manque de réflexion sur les forces en présence. C'est d'ailleurs déjà le thème de son film « Lotna », donc qui date des années 50, la fin des années 50, où l'on voyait des cavaliers polonais chargés contre des chars. Et Walesa, lui, a gagné par réalisme politique, parce qu'il savait jusqu'où il pouvait aller. Et aussi, pour Wajda, parce qu'il était un ouvrier, il a gagné là où les intellectuels avaient échoué. Donc on pourrait dire que c'est un film à thèse, pourrait presque employer le terme de film de propagande s'il ne s'agissait du portrait d'un homme qui n'est plus au pouvoir.
Alors je dirais que je me méfie toujours des films à thèse, hein. Encore plus des films de propagande, parce que ça arrive rarement avec bon cinéma.
Oui, bien sûr, le terme est un peu provocateur, mais Wajda est un grand réalisateur. Et il sait donner vie à son film en structurant son récit en fait sur trois plans. Le fil conducteur du récit est l'interview avec la journaliste italienne Oriana Fallaci, interview qui a effectivement eu lieu, et le texte de l'interview est à peu près respecté. Ce qui est dit dans le film a réellement été dit. Le deuxième plan, ce sont des scènes de famille qui sont, elles, entièrement inventées. On est complètement dans la fiction. Et enfin, le troisième plan montre les événements de l'époque, donc de 70 à 90, essentiellement autour de 80, et l'engagement politique de Walesa. Et alors pour cela, il mêle de vraies images d'archives et de fausses images qui sont retraitées en noir et blanc et qui se colorent peu à peu quand on passe à la fiction. Donc là, c'est les bienfaits de l'électronique. Il utilise en plus une image à gros grains comme les pellicules de l'époque. Alors, il avait déjà utilisé ce procédé de mélange de réel et de fiction pour l'homme de fer, mais évidemment, les progrès de la technique rendent l'effet encore plus efficace.
Et tu n'as pas trouvé que ça donnait au film un aspect un peu froid, un peu distancié, et que les spectateurs n'étaient pas passionnés?
Bon, alors, pour être honnête, le film n'a sans doute pas le souffle de l'homme de fer. Bon, en plus, l'homme de fer, il est sorti en 81, on était en plein dans le chaud des événements. Bon, là, c'est du ressassé. Mais quand même, Wajda sait rendre, par des images, des anecdotes, l'atmosphère pesante de cette époque qu'il a lui-même vécue. Le film baigne d'ailleurs dans des couleurs très froides, de gris, de bleu. Enfin, c'est angoissant. Dès les premières images, on voit aussi des policiers suivre la voiture de la journaliste et la filmer alors qu'elle sort devant l'immeuble de Walesa. Donc, on est prévenu, tout est surveillé. Plus tard, dans des scènes d'ailleurs qui se répètent comme un rituel immuable, on verra Walesa laisser sa montre et son alliance à sa femme quand il part dans les manifestations pour qu'elle puisse les vendre s'il ne revenait pas. Donc le message est clair, on peut disparaître, il laissait sa peau quand même dans ces manifestations. Et autre exemple, dans une scène que je trouvais assez forte, on voit sa femme Dunata donc, représenter son mari à Oslo pour recevoir le prix Nobel. Elle est comblée d'honneur et au retour en Pologne, elle est accueillie par la police par une fouille au corps, totalement humiliante, petite vengeance mesquine d'un pouvoir aux abois. Et je trouve que c'est par des scènes de ce type que Wajda, bon, au-delà du documentaire, je dirais presque sur l'époque, prend à témoin le spectateur et lui fait ressentir très profondément l'angoisse permanente et les risques de l'action politique dans cette Pologne des années 80.
Oui, enfin, je suis... Enfin, c'est sûrement pas un film négligeable, pour ça je suis d'accord, mais j'avoue que je suis quand même resté un petit peu sur ma faim. Parce que je trouve qu'on est quand même assez loin des grandes fresques qu'avaient été l'homme de mort et l'homme de fer. Encore que pour moi, d'ailleurs, c'est pas le meilleur genre de Wajda que ces grandes fresques. Je préfère infiniment quand il se laisse emporter par des personnages comme dans La Terre de la Grande Promesse. Donc pour moi, déjà, ces films, comme l'homme de mort et l'homme de fer, c'est quand même pas ce qui se fait mieux, et l'homme de mort, de peuple, si je puis dire, est encore un peu moins bien, parce que je trouve qu'en fait, il a un côté beaucoup trop hagiographique. Et d'ailleurs, pour Walesa, d'ailleurs, apparemment, c'était pas suffisamment hagiographique, puisqu'il a reproché à son personnage, lors de l'interview par la journaliste italienne, d'être trop arrogant. Enfin, ceci dit, c'est peut-être un petit peu méchant, hein, parce que c'est quand même un bon film. Mais je trouve qu'on j'ai un peu le sentiment d'être dans une espèce de film presque suspicien, avec une double canonisation du saint. Par l'Académie Nobel d'abord, puis par le Congrès américain ensuite, et puis avant ça, les miracles obligatoires, qui sont ces interventions au succès tout à fait inattendu dans les chantiers de Gdansk. Enfin voilà, ceci dit, bon, c'est sûr, avec toutes ces réserves, c'est quand même un film que j'estime beaucoup. François, tu...
Non, ben moi, je trouve que tu as beaucoup trop de réserves. Voilà.
Ah bon.
Beaucoup trop de réserves. Oui, Valéza, pour moi, c'est vraiment un grand homme, parce que dans les années 80, on suivait à la radio, dans les journaux, on retenait son souffle pour savoir ce qu'il faisait. C'est un homme d'un courage extraordinaire. C'est quand même grâce à lui que la Pologne a réussi à prendre ses distances par rapport à ce qui se passait en URSS. C'est quelqu'un qui a pris sur lui, c'est un homme simple, c'est un homme du peuple, homme qui a pris sur lui une lutte extraordinaire. Oui, d'accord, mais je rejoins Vajda, voilà, je rejoins Vajda dans cette admiration sans bornes qu'il a pour un homme qui, certes, ne correspondait pas tout à fait à ce que tout le monde attendait de lui, mais qui le peut, et je suis dans l'admiration, et je suis contente qu'un hommage vous a rendu. Maintenant, sur le plan du cinéma, je rejoins ce que tu as dit, à savoir que je suis sortie sous-alimentée de ce film en me disant bof, bof, mais c'est vrai que je me souvenais, moi, bien sûr, comme tout le monde, de Cendré Diamant, que j'avais adoré ce cinéma baroque, ce héros romantique, que je pensais retrouver la même chose, mais on est toujours déçu quand on a des attentes avant d'aller dans un film, donc il faut mettre ses attentes dans son sac à main quand on est une dame, et prendre ce que nous offre le réalisateur. Alors, en manque de cinéma, oui, je me disais, pourquoi il ne fait pas un documentaire carrément, mais moi, c'est lui qui a choisi, hein. Mais je suis très contente qu'un hommage de cette taille-là soit rendu à un homme pour qui j'ai tellement d'estime.
T'as quel âge, tu...
Oui. Bon, ce troisième film de Vajda sur l'homme de Solidarnosc, qui est son ami, moi je le résumerais presque par cet adage sur l'évolution des grandes idées. Une belle idée devient idéal, puis devient idole. Je crois que c'est ce qui est arrivé à Lech Walesa, c'est un homme providentiel malgré lui. Le titre original, d'ailleurs en polonais, veut dire l'homme de l'espoir.
Oui, c'est beau, l'homme de l'espoir.
Alors, Walesa s'est toujours vu comme un homme simple, doté de franc-parler. Il avait du charisme. Mais comment est-ce qu'on peut rester soi-même quand la foule derrière vous vous propulse et quand devant vous, vous avez l'ennemi? La pression est extrême. La gratification est en proportion. Et quelle était la part de gratification dans l'évolution de Walesa? Alors, ici, on a droit... C'est moins un biopic que les deux films précédents. C'est comme une grande machine à recycler dans laquelle... Tout est mélangé. La couleur, le noir et blanc, la légende avec la réalité, la fiction, les archives, la reconstitution de la vie de famille du héros, comme si l'abondance pouvait traduire la complexité du réel. Ça fait pour moi un film un peu décevant. Il y a des atouts quand même dans le film. La musique, c'est de la pop de l'époque. Elle est excellente. Et l'interprétation aussi est impeccable. Un cinéaste de 88 ans peut encore surprendre.
Oui, parce que j'ai bien aimé au point de réalisation. Je pense que tu parlais un petit peu tout à l'heure de la couleur du noir et blanc. Je trouve que c'est extrêmement astucieux parce qu'il y a déjà cette affaire du grain de photo qui est maintenu et qui est remarquable. Et puis aussi, je trouve que ce qui est remarquable, c'est qu'il utilise la colorisation du noir et blanc qui fait qu'on ne sait jamais très bien si on a affaire à une image d'archive ou si on a affaire à une image qui vient de tourner.
Ça,
c'est remarquable.
Des fois, c'est un peu agaçant.
J'ai trouvé ça très bien. Mais sinon, je suis complètement d'accord avec toi. C'est un film effectivement hagiographique. D'ailleurs, Vajda s'en cache pas. Il a vraiment voulu faire un film hagiographique.
Oui. Mais est-ce que c'est péché de faire une hagiographie?
C'est pas forcément péché. Et en plus, c'est vrai que Walesa, dans les années, au début des années 90, était véritablement une idole. C'était l'équivalent du pape pour les Polonais. Oui, enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire. On allait baiser la main de Walesa, quoi, quasiment.
Donc, le film a un grand succès en Pologne, d'ailleurs.
Et le film a un succès gigantesque en Pologne. Il a d'ailleurs quand même... D'ailleurs, petite anecdote, il paraît que quand Walesa a été dans des représentations de ce film et qu'il y avait des applaudissements à la fin, c'était pas Vajda qui se levait pour recevoir les applaudissements, c'était Walesa. Donc, c'est lui le héros. Et tu disais, qu'il avait à moitié aimé le film. En fait, il a bien aimé le film. C'est le comédien qui l'a pas trouvé.
C'est
bon,
le comédien
parce qu'il n'était pas à sa hauteur.
Ah, oui. Donc,
et ça, c'est intéressant parce que, en fait, le film, tout à géographique qu'il soit, montre quand même bien un héros un peu content de lui. En fait, il aime ça, la foule qui l'acclame. Dans l'interview aussi, il est un peu presque... Il est d'un... d'un contentement presque un peu naïf. Donc il y a quand même pas que de la géographie, il y a quand même quelques petites touches qui le rendent un peu plus
piédestal, oui. Même s'il y a des trucs très amusants comme le tableau dans lequel qui est arrivé à côté du pape dans l'appartement et que sa femme à un moment dans un esprit de rage d'ailleurs le décroche.
Oui, il y a des petites scènes comme l'alliance et la montre qu'il enlève trois fois.
Mais ça,
la question finalement, on ne lui rend qu'à la fin. Alors qu'est-ce qu'elle a fait les premières fois?
Oui, enfin, c'est à la fois un peu risible, ça relève du rite, mais ça veut quand même aussi dire que on n'était pas toujours sûr de revenir d'une manifestation.
Donc c'est là où
le film est assez intéressant, quoi. C'est-à-dire qu'il montre une petite anecdote à la fois un peu comique, mais aussi qui dit quelque chose.
Absolument, oui, c'est le symbole du risque qu'il prend avec ce.
Mais pour revenir à vos critiques, moi je trouve qu'effectivement c'est un film qui est intéressant, mais qui manque de souffle par rapport à ce qu'on avait connu.
On est un peu déçu, voilà. On ne va pas lire trop fort.
Bien, on va peut-être faire une petite pause musicale et ensuite on va continuer cette émission. On va reprendre notre débat avec le dernier film de François Ozon, Une nouvelle amie. Alors, Ozon est un cinéaste assez souvent contesté, je pense que d'ailleurs on va le constater d'ici peu. Moi, je trouve que j'aime beaucoup sa façon de mettre des grains de sable dans les rouages d'une société trop huilée. Et personnellement, d'un certain côté, je le rapproche un petit peu de Chabrol. Hein. Alors, c'est un semeur de malaise. Que j'aime beaucoup à cause de ça. Par exemple, dans Jeune et Jolie, il y avait le désarroi de cette famille bon chic, bon genre, qui découvrait que leur fille ravissante et sans problème se livrait à la prostitution sans aucune raison. François, est-ce que tu dirais que l'intérêt d'une nouvelle amie repose encore sur le malaise que crée ou que tente de créer ce film?
Ouais. En ce qui me concerne, je n'ai pas éprouvé de malaise. Moi, je parlerais plutôt d'un fil subtilement dérangeant. Subtilement dérangeant parce que cette histoire d'un homme qui aime porter des vêtements de femme, ce n'est pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre. Alors merci, enfin ce film n'est pas ce à quoi on pourrait s'attendre et merci François Ozon. En effet, c'est pas du tout une énième histoire de travesti, ce n'est pas une réflexion sur le genre, les garçons et Guillaume à table, que par ailleurs j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas un film réaliste, ce n'est pas un docu-fiction de plus sur le mariage gay ou sur les nouvelles formes de la famille. Ce n'est pas un film militant.
Alors c'est un film quoi pour toi?
Eh bien, c'est une fiction, c'est-à-dire une histoire inventée et qui a du sens. On n'est jamais dans la réalité. On est dans de l'imaginaire avec des fantasmes, des rêves, des émotions, surtout des émotions. Et avec des personnages qui, moi, m'ont touchée. Alors voilà, au début de l'histoire, il y a deux petites filles inséparables, Claire et Laura. Elles scellent leur amitié avec leur sang. Elles gravent leur nom sur l'écorce d'un arbre. Et puis un beau jour, elles vont se marier, comme tout le monde, selon la plus pure tradition de leur milieu très bourgeois, à l'abri du besoin, magnifique villa, voiture de rêve. Et automne flamboyant à la Douglas Sirk, Ozon s'en donne à cœur joie. Mais voilà que Laura meurt, laissant une petite fille de 6 mois et un mari inconsolable. Et c'est maintenant que commence cette histoire que je trouve subtilement dérangeante, avec un Romain Duris remarquable de justesse, d'intelligence, de sensibilité, qui campe un mari en plein désarroi, David. Ou plutôt David Virginia, puisque David va revêtir des vêtements de femme, de sa femme, ceux de Laura. Mais pourquoi, s'écrie Claire, qui est venue prendre des nouvelles en passant et qui découvre stupéfaite David, assis au milieu du salon, donnant le biberon au bébé et portant perruque et robe à fleurs. Pour remplacer un peu sa mère, dit-il doucement, pour qu'elle puisse encore nous voir un peu tous les deux. Claire, très dérangée bien sûr, va tenter dans un premier temps de ramener son amie à la raison. Mais enfin, tu es un homme, ça peut pas durer comme ça.
On voit David qui se transforme de plus en plus en Virginia. Hein. Perruque, maquillage, robe, talons aiguilles. Et puis on a l'impression que Claire accepte cette situation.
Oui, c'est dérangeant. ou pas. Claire a l'air d'être bouleversée par cette Virginia qui fait revivre Laura, son amie disparue, qu'elle aimait tellement. Claire est comme fascinée, me semble-t-il, par la nouvelle apparence de David. Et tandis que David prend chaque jour davantage l'apparence d'une femme, Claire, qui s'habillait sobrement, qui préférait les pantalons aux robes, qui ignorait le maquillage, Claire, tout doucement, va se féminiser et voir ses certitudes s'effilocher. Alors, on ne dévoilera pas la fin du film, bien sûr, sinon qu'elle est inattendue, à la fois drôle et sérieuse.
Alors, effectivement, on entend assez souvent les gens rire dans la salle. Alors, est-ce que c'est parce que c'est dérangeant et que derrière le rire, il y a une certaine gêne qui se cache, ou bien parce qu'on est dans une vraie comédie ?
Oui, c'est sûr qu'on rit. Un exemple, quand la belle-mère de David arrive à l'improviste pour voir son gendre et le bébé, et que justement David est en train d'essayer dans la salle de bain une nouvelle perruque et un rouge à lèvres écarlate, c'est irrésistible. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à aucun moment on ne se moque. On ne se moque pas. Le rire vient toujours des situations qui parfois sont désopilantes. Le rire ne vient jamais, jamais du personnage. Le film nous fait continuellement passer du burlesque des situations au tragique du ressenti intime des personnages en pleine ambivalence, en plein désarroi. Moi, j'ai aimé le regard que François Ozon porte sur ces personnages. J'ai été touchée par eux, comme on peut l'être par ceux qui sont autres, tout autres, et non pas pour amuser la galerie, mais autres parce que c'est leur vie à eux. Et c'est à mes yeux un très beau film sur la complexité de l'être. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, enfin, je veux dire que personnellement, c'est cette complexité qui m'a séduit dans ce film, même si ça en a peut-être irrité d'autres. Je trouve que Ozon nous fait pénétrer dans des profondeurs de l'être où règne, entre guillemets, une confusion des sentiments qui va bien au-delà de la confusion des sentiments décrite par Zweig dans son célèbre roman. On est loin de tout cinéma classique, on est loin de toute relation amoureuse traditionnelle, c'est plus que de l'ambivalence ou de l'ambiguïté du sentiment amoureux. Moi, je parlais presque de multivalence ou de multiguïté, si je puis dire, de sentiment amoureux. Enfin, je trouve ça c'est extraordinaire. Il y a David qui aime, il y a Claire qui a aimé Laura dans l'amour au contenu homosexuel est resté inexprimé, latent, mais qui maintenant que Laura est morte se manifeste en se repensant sur Virginia. Virginia lui-même est ce personnage complètement inidentifiable de David devenu Laura. Il y a David qui aimait Laura au point de devenir elle-même maintenant qu'elle est morte et qui maintenant aime Claire, non pas en tant que David, mais en tant que Virginia, c'est-à-dire en tant que lui-même devenu Laura. Bon, je crois que c'est difficile de faire plus complexe. Et ce qui ajoute encore à tout ça, c'est que à travers ce lien qui se tisse entre eux, ce que chacun aime, c'est une morte, c'est Laura. Et une morte ressuscitée, Virginia étant Laura, à la fois pour David et pour Claire. Enfin, je crois que là, ça touche des fantasmes très profonds. Puis, on ne peut pas s'empêcher de penser à Hitchcock et à Sueur froide, lorsque Kim Novak se transforme de la brune Judy, devient la blonde Madeleine. Mais je crois que Tatiana est très opposée à cette position.
Wow. Ozon, c'est un cinéaste très prolifique. Moi, je le vois très bien à sa table de travail, après son dernier succès. Il se dit, bon, and now what? Tiens, il y a un sujet que j'ai jamais traité, le travesti. Aussitôt, direction Wikipédia, qu'est-ce qu'il y a à dire sur les travestis? La liste est longue et la matière immense. C'est pas mauvais comme idée de départ, pourtant. Un hétéro s'habille en femme pour rassurer son bébé en s'incarnant dans la mère morte. Mais bientôt, il y prend goût. Et là, avec son amie Claire, celle qui l'a débusqué et qui était d'abord hostile, devient complice. Il veut absolument faire son coming out. Et les voilà, comme une paire de copines, courant les boutiques et les salons de maquillage. À partir de là, ça devient un grand n'importe quoi. Ça ne s'arrête pas de basculer. Claire a des rêves homo avec la copine morte. David Virginia passe de homo à hétéro, mais toujours honteux. Dans un premier temps, il ne faut rien dire à Gilles, le mari. Puis, est-ce que c'est un effet de mon imagination, mais les deux hommes ne se font-ils pas des papouilles pour de vrai ?
C'est un fantasme, ça. C'est un pur fantasme, ça.
Oui, mais c'est bien réel, quand même. Alors, il y a une tentative avortée de sexe entre Claire et David. Ben oui, horreur, il est un homme. J'oublie quelque chose dans la liste? Ça ne pouvait pas durer comme ça. Un accident de la circulation met bon ordre à tout ça. coma profond pour David, dont la copine, plus forte que les toubibs, le sort en le réhabillant en femme. Happy End! 7 ans après.
Non, tu ne vas pas raconter la fin.
Il n'est pas la fin, on a assez défendu.
Il ne faut pas assez défendu parce que.
Oh non.
Écoute, Jacques, bon, est-ce que toi. Je vois pour l'instant, on est deux pour un compte. Donc, dans quel camp tu te ranges, toi, Jacques?
Ah, je suis pour, mais avec quelques nuances par rapport à votre enthousiasme, quand même. Moi, je veux dire que la première heure m'a vraiment beaucoup plu. C'est léger, c'est pétillant. J'ai adoré le jeu des deux personnages, de Claire et de ce David Virginia. L'ambiguïté de David entre jeu et pulsion profonde, les zigzags de Claire qui tantôt est la raisonnable, qui désapprouve tantôt la faux-folle, qui pousse Virginia aux pires aventures. Moi, j'ai trouvé Anaïs de Moussy absolument géniale, avec son petit visage sage qui s'illumine d'un amusement presque d'enfant aux extravagances de Virginia, mais elle est aussi un peu démurge parce que c'est elle quand même qui invente le prénom Virginia et qui donc qui crée d'une certaine manière le personnage. Et puis elle se met aussi à jouer un jeu dangereux sans réfléchir d'ailleurs, peut-être pour épicer un peu sa vie, en cachant à son mari des choses qu'elle aurait très bien pu lui dire et au risque bien sûr de créer la suspicion. Donc tout ça crée une très plaisante, à mon avis, première heure. Ensuite, j'ai trouvé que ça se compliquait un peu, qu'on virait un peu au drame, je ne vais pas dévoiler la fin, mais qu'on a presque besoin de recourir au Deus Ex Machina. J'ai un peu eu l'impression que Ozon avait démarré sur les chapeaux de roue, avait fait quelque chose de vraiment, comment dirais-je, léger, et puis qu'il ne savait plus trop comment finir, parce qu'il faisait croître les sentiments des personnages, mais il ne savait pas très bien comment arriver. Et donc, moi, j'ai moins aimé la fin. Mais le début, extraordinaire.
Alors, de ce que dit Jacques, en effet, il y a du burlesque et du tragique, il y a de la mort. Le film s'ouvre sur les lèvres d'une morte qui sont maquillées, donc le tragique est sous-entendu. Maintenant, concernant l'origine de ces scénarios, Tatiana, tu parlais d'un sujet donc, qu'il aurait pu chercher sur Wikipédia. En fait, moi, j'ai lu qu'il avait adapté une nouvelle... Qui a été écrite il y a 30 ans par un écrivain anglais qui s'appelle Ruth Rendell. La nouvelle s'appelle The New Girlfriend, donc la nouvelle amie. Et ça fait 30 ans qu'il a envie de tourner ce film et qu'il ne le fait pas. Il y a 30 ans, la question de l'indéfinition sexuelle n'était pas encore débattue publiquement comme elle est aujourd'hui. Donc on a l'impression qu'il tombe pile poil dans le mariage pour tous. Je pense que c'est plus ancien que ça. Et autre chose, j'ai découvert également qu'il avait employé une astuce de scénario que j'ai trouvée remarquablement intelligente. L'épisode de la mort de Laura au début du film n'existe pas dans la nouvelle. Et François Ozon dit quelque part qu'en inventant la mort de Laura et en permettant ainsi aux spectateurs de comprendre le comportement de David, qui veut être à la fois le père et la mère de son bébé, en permettant de comprendre, ça permet aux gens de faire un pas avant d'accepter. Alors on accepte, on n'accepte pas, mais j'ai trouvé ça intéressant.
Et voilà.
Wikipédia, c'était une plaisanterie de ma part. Je ne sais pas du tout comment ils ont écrit ces trucs.
Oui, c'est une nouvelle.
Et moi, j'adore ce nom de Virginia qui renvoie manifestement à Virginia Woolf et à Orlando. Donc, ça, c'est bon. On va passer donc, voilà, le temps est passé, donc on va passer maintenant aux coups de cœur qui sont prévus. Tatiana, tu voulais nous parler du sel de la terre, ce magnifique documentaire.
La merveille des merveilles.
Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, versets 13 à 16, il est dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Sébastien Salgado a été longtemps interdit de séjour dans son pays natal, le Brésil, pendant la dictature des colonels. Bon, je vous rappelle, c'était de 64 à 85. Aussi, pendant 40 ans, avec sa femme Lélia, puis avec son fils Giuliano, il a parcouru le monde avec son appareil photo, sur les pas d'une humanité en plein bouleversement. Il plonge dans l'enfer des conflits internationaux. Sahel, Éthiopie, Soudan, la famine, les corps décharnés, le choléra, les camps de réfugiés. Grand admirateur du travail photographique de Salgado, c'est Wim Wenders qui a entrepris avec l'artiste et son fils de faire des sélections dans un océan de documents. Le sel de la terre est le documentaire qui en est résulté. Souvent, comme dans le très beau film sur les SDF à Paris, au bord du monde, la question se pose. Pourquoi tant de beauté dans l'image pour retranscrire tant d'horreur? Comme Klaus Drexel, Salgado se veut un témoin. Mais sans la beauté des images, on aurait détourné les yeux. Salgado voulait que ces choses-là soient montrées, qu'on ne puisse pas dire une fois encore qu'on ne savait pas. L'artiste ne se veut pas un moraliste, ni un donneur de leçons. Il montre, maintenant que vous savez, vous êtes libre d'agir si et comme vous le souhaitez. Il y a eu un moment pendant le film où j'avais la gorge tellement serrée que j'ai cru que j'allais sortir de la salle. À cet instant, à l'écran, Sebastião Salgado a dit qu'à force de côtoyer tant d'horreurs, il était tombé malade, physiquement malade, mais que c'était son âme qui était malade.
Il faut aller vite parce que sinon on ne
tiendra
jamais.
J'avais tant croisé la mort que je me sentais moi-même mourir. Il est alors retourné au Brésil, son pays devenu accessible aux proscrits. Il est allé à la finca de son enfance. Elle avait été saccagée par le déboisement. C'était devenu un désert. Pendant 10 ans, avec sa femme, Salgado a entrepris de replanter près de 2,5 millions d'arbres, peut-être un pour chaque mort qu'il avait rencontré, jusqu'à recréer le paradis terrestre de son enfance. Puis il a recommencé à photographier, mais Genesis, son œuvre depuis lors, est consacrée à la vie. Il montre désormais la beauté de la Terre.
Ok, merci Tatiana. Je crois que bon, c'est un film qu'il ne faut
magnifique,
surtout pas manquer.
Magnifique, absolument,
pas manquer. Bon, on va passer à un film tout à fait différent. Le coup de cœur de Jacques, alors c'est très différent.
Oui, c'est A Girl at My Door. C'est le premier long métrage de la réalisatrice coréenne Julie Jung. Alors le film est d'ailleurs produit par Lee Chang-dong, le réalisateur de Secret Sunshine, Poetry, avec lequel on peut voir une certaine parenté. L'histoire est celle d'une jeune commissaire de Séoul, homosexuelle, qui est mutée d'office dans un petit port de la côte coréenne. Elle se trouve confrontée à un monde très différent de ce qu'elle a connu. Et dès son arrivée, elle croise une jeune fille dont le comportement l'intrigue. Et elle va s'attacher à cette très jeune adolescente et la défendre contre sa famille qui la brutalise. Alors on retrouve tous les ingrédients en général des cinémas coréens, violence, corruption, sexisme, mais avec une bonne dose d'originalité et d'audace. En effet, l'œuvre est de facture classique, mais transforme les schémas du film policier du fait que les deux héroïnes sont des femmes. Le policier intègre mais alcoolique qui s'oppose au caïd du coin est une femme, et cela rajoute bien sûr à ses difficultés. Il y a aussi retournement du schéma courant flic-enfant, le couple ici est féminin, et ce n'est pas gratuit d'un point de vue dramatique, car leur solitude et leur exclusion de la société en sont accrues, mais par contre l'instinct maternel s'y rajoute. Et puis, il y a aussi une originalité dans la résolution du problème policier, puisque le méchant est puni, c'est bien, mais pour le seul crime qu'il n'a pas commis. Audace, enfin, par rapport à la société coréenne, puisqu'il est question d'homosexualité, qui plus est féminine, qui est un sujet complètement tabou, aussi bien dans la société que dans le cinéma coréen. Donc, c'est un premier film tout à fait intéressant, prometteur, réussi au plan formel, et qui est intéressant par son sujet.
D'accord, merci Jacques, effectivement. C'est un film qui vaut le coup. C'est tout à fait différent. Alors on va quitter la Corée pour aller aux États-Unis.
À toi, François.
Oui, tu as une bonne minute et demie. Vas-y.
Film, c'est Love is Strange de Ira Sachs avec Alfred Molina et John Lithgow. C'est un film qui ne se réduit pas au mariage d'un vieux couple d'homosexuels. Il s'agit en réalité d'un film sur l'amour d'un couple. Et ici, Ira Sachs semble se désintéresser complètement de la différence entre hétéro et homo. Il filme la tendresse, la douleur de la séparation, la douceur d'être ensemble, et tout ceci avec une infinie pudeur. Si l'émotion est bien présente dans ce film, elle n'est jamais dans la surenchère. Et c'est un peu cette émotion que nous trouvons dans les nocturnes de Chopin qui berce le film presque d'un bout à l'autre. Pour le dire en deux mots, après 39 ans de vie commune, Ben, 71 ans, et George, qui a quelques 10 années de moins, décident de se marier. Ils sont entourés de leur famille, mais leur vie va basculer. Ils ne vont plus pouvoir habiter dans l'appartement qu'ils ont pour des raisons financières, être logés séparément et vivre la douleur de la séparation. Je m'arrête là, mais allez voir le film.
Merci Françoise, merci Jacques, merci Tatiana, merci Arnaud. Nous allons donc nous quitter maintenant et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission de Chant contre Chant qui aura lieu le mardi 23 décembre de 13h15 à 14h, donc juste avant Noël. Et on vous souhaite donc un bon mois de décembre.